tous, nous sommes le mardi 2 juillet. Je suis Marion et tout de suite, c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour discuter et débriefer ensemble de l'actualité tech. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous êtes levés du bon pied. Et de toute façon, on va commencer tranquillement par se saluer dans la chatroom. Je vais vous regarder un petit peu, voir qui nous a rejoint ce matin. Hop, je rapproche un tout petit peu le micro pour que vous m'entendiez bien. Hop. Et du coup, on a une petite maintenance technique en live qui va forcer le son du micro, a priori, je pense. Voilà. Merci, merci, merci. Donc, j'espère que vous allez bien dans la chatroom. Salut à tous. Salut Samuel, salut Grob, salut Oleg, salut Bistropixel, salut Yves Castel, salut Homs92, salut Eraou. Eru Rokoya. Salut à toi et un grand, grand merci pour ton soutien depuis l'hosto. J'espère que ça va. Toutes nos pensées sont avec toi. Voilà. Salut à Technisavoir également. Salut Brifon. Salut Olivier SG. Salut Chatsteph. Salut Bastille. Salut, salut à toi. Salut Poppy. Salut Polaire. Salut Sakura Joujou Loli. Salut Batlit. Salut Villa Dalé 2. C'est pas un fond vert, non, c'est pas un fond vert. En effet, on a une jolie déco derrière avec la peluche Twitch, mais pas que, plein de petits animaux, etc. Le casque ici que vous devez reconnaître, même s'il est flouté. Donc voilà. Je découvre ta chaîne, vous parlez de quoi? De l'actualité des élections? Non, pas du tout. On parle de l'actualité tech. Donc des fois, il y a un peu de politique parce que la politique peut influencer la tech. Et notamment, on va parler notamment de la politique européenne qui essaie de taper sur les doigts d'Apple et de Meta. Mais ce n'est pas le cœur de l'émission. Le cœur de l'émission, c'est tech. Et on aborde l'actualité sous cet angle tech. Voilà. Donc j'espère que c'est quelque chose qui t'intéresse. Et en tout cas, tu peux tester, rester un petit peu avec nous pour voir si c'est à ton goût, tout simplement. Salut Zagarek Snail, salut Sfatou, salut, salut. Donc voilà, mais du coup, de quoi va-t-on parler concrètement ce matin en termes de tech? On va parler un peu du sommaire. Et bien justement, comme je disais, on va parler politique puisqu'on va revenir sur le fait que, ça y est, la Commission européenne a annoncé qu'elle jugeait illégal le fait de faire payer un abonnement aux utilisateurs pour éviter d'avoir des publicités personnalisées sur les services de Meta, donc ça veut dire Facebook, Instagram. Donc ça a été tranché, hein, et donc on reviendra sur le sujet un peu plus précisément. Et puis on continue notamment avec encore l'Union européenne qui tranche par rapport au respect ou non du DMA, hein, du Digital Market Act, et qui a justement donné sa décision pour Facebook, et ben ils ont rendu également leur décision en ce qui concerne Apple, et ils ont annoncé que Apple ne respectait pas le DMA, notamment dans le cadre de son modèle économique qui découragerait les développeurs d'applications et les utilisateurs finaux de profiter des possibilités offertes par le DMA. Plus précisément, le Apple aurait mis en place un système volontairement compliqué pour empêcher les Européens de payer en dehors de l'App Store. Donc on reviendra un peu plus en détail sur ces deux décisions qui ont été prises par l'Union européenne dans le cadre du DMA qui est rentré en vigueur très très récemment. Et donc c'est intéressant, mais les couperets tombent, les premiers en tout cas couperets tombent. On reviendra aussi sur les risques du coup d'amende qui pourraient toucher Apple et Meta dans ce cadre. Et puis après, on parlera de quelque chose d'un peu plus positif, des nouvelles fonctionnalités qui pourraient venir avec le Tap to Pay, avec le NFC. Vous savez, on a tous l'habitude de payer maintenant en sans contact, via le NFC, etc. Et ben voilà, il y a un espèce de consortium de grandes sociétés hein, qui regroupe notamment Apple, Google, etc., qui réfléchit un petit peu à comment développer le futur de ce paiement NFC comment on pourrait le rendre encore meilleur et notamment il y a un concept qu'ils appellent multi-purpose tap qui veut dire en gros le tap à plusieurs objectifs voilà et donc ça veut dire que en simple tap tap to pay en simple tap vous allez pouvoir exécuter plusieurs actions en même temps pas uniquement payer, mais faire d'autres choses. Donc ça va certainement nous simplifier la vie puisqu'il n'y aura plus besoin de faire de multiples taps pour plusieurs étapes. Mais vous pourrez le faire en simple action unique. On verra un peu plus en détail qu'est-ce que seraient ces actions et ce multi-tap, qu'est-ce que ça pourrait regrouper et est-ce que il y a que du positif. Petit disclaimer, petit avertissement, non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a quelques petites réserves concernant notre confidentialité et on reviendra dessus tout à l'heure. Ensuite, on continuera et on reviendra faire un petit détour du côté de Meta avec plus précisément Instagram et l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? Tout simplement, Meta est en train de lancer un studio qu'ils appellent le AI Studio. Donc voilà, AI, intelligence artificielle, on en parle. On ne peut pas y couper puisque c'est vraiment l'actualité de ces deux dernières années. Mais qu'est-ce que va faire concrètement le AI Studio ? Il va permettre aux créateurs de pouvoir faire leur propre chatbot AI alternatif et version d'eux-mêmes. Donc ça, c'est assez intéressant. Enfin, on en discutera tout à l'heure. Mais voilà, laisser et mettre dans les mains des créateurs un studio AI qui va permettre de répliquer ou de pouvoir répondre à leurs utilisateurs à la place des créateurs. Voilà, et pas que. Hein. On détaillera un petit peu qu'est-ce que ça sous-entend, ce AI Studio, et qu'est-ce que ça permettra de faire aux créateurs et à la communauté de créateurs, de quoi ils pourront en profiter. Et puis, on continuera avec l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci du côté de Apple, avec Apple Intelligence. Vous l'avez vu en titre, il y aurait des rumeurs plutôt sérieuses, hein, puisque c'est avancé par Bloomberg, qui sont assez spécialistes sur le sujet et qui a été extrapolé dans leur dernière newsletter Power On, qui évoque l'idée que Apple pourrait faire payer les fonctionnalités d'Apple Intelligence à ses utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? De quel service quel service ça concernerait ? Avec quelle fonctionnalité ? On reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Voilà. Et puis d'autres actualités qui concernent Apple. Donc on va faire un petit peu le tour de ça. Alors vous le savez, Jérôme, je pense que vous en a parlé très certainement la semaine prochaine, mais l'Apple Vision Pro va arriver très prochainement puisqu'il est en commande depuis le 28 juin et va sortir officiellement le 12 juillet en France. Et donc, du coup, pour certains d'entre vous, vous posez peut-être la question de comment faire pour commander les verres qui sont requis pour ceux qui n'ont pas une vision à 100% parfaite. Comment s'assurer d'avoir les verres, sachant que la commande de verres adaptée à la vue est encadrée de manière assez stricte en France. On ne peut pas, n'importe qui et n'importe quel revendeur ne peut pas vendre des verres adaptés. Et donc, du coup, en plus, ce sont des données de santé. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour l'expérience de acheter le Vision Pro et de commander des verres adaptés à sa vue ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que Numérama a fait le test pour vous. Et donc, du coup, tout simplement, on va discuter de l'expérience que Numérama a partagée dans leur article. Et vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui va vous refroidir ou pas ? On pourra en parler tout à l'heure. Et puis une autre news Apple, une brève hein, ici. Vous savez, on avait parlé notamment de l'arrivée d'une nouvelle application qui s'appelle Apple Diagnostic, qui va permettre en fait de faire le diagnostic de vos appareils Apple pour identifier les problèmes de performance, etc. et vous aider, vous guider à réparer potentiellement votre appareil vous-même. Hein. C'est vraiment vers de la réparation autonome que l'application vous guide. Et ben cette application fait son arrivée en France, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et puis, on terminera avec un petit clin d'œil d'une nouvelle application qui fait son arrivée sur Mac et qui a pour but, en tout cas, de vous encourager à vider votre corbeille de manière plus ou moins régulière avec un petit clin d'œil rigolo. Donc, on en parlera. Moi, ça m'a fait sourire. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé en fin d'émission. Voilà pour le sommaire ce matin. J'espère que le sommaire vous plaît. J'en ai pas d'autres. Donc, tout simplement, vous êtes prévenus. J'espère que, en tout cas, vous allez rester avec moi pour le reste de l'émission. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite pour notamment l'Union européenne et les diverses décisions et avertissements qu'il distribue à tout va aux grandes sociétés tech. On va commencer notamment avec Meta tout de suite. Voilà, comme toutes les grandes entreprises de la tech, hein, Meta, qui regroupe évidemment Facebook, Instagram, WhatsApp, donc qu'on connaît bien, doit évidemment se conformer aux nouvelles réglementations européennes et notamment le DMA, le petit dernier, Digital Market Act. Et une de ses obligations est de laisser à ses utilisateurs pardon, le choix sur l'utilisation de leurs données. Et donc, Facebook et Instagram sont légalement obligés d'offrir l'option de ne pas partager ce que je fais avec les publicitaires. Mais le problème ici, c'est que la quasi-totalité des revenus pour Meta et Instagram et Facebook provient de la publicité. Et le revenu augmente si la publicité est personnalisée. Voilà. Et donc, pour contourner cette contrainte, le groupe de Mark Zuckerberg a eu l'idée d'offrir une proposition alternative à ses clients, donc de leur laisser le choix. Et ils peuvent soit partager leurs données avec Meta, et donc ce qui permet d'enlever les publicités et de ne pas payer, voilà, ou de supprimer les publicités personnalisées et la collecte d'informations pour 9,99€ par mois. Et donc, du coup, avec cette combine, comme je disais, techniquement, Meta offre le choix ou la possibilité de refuser les publicités ciblées. Mais la question, c'est est-ce que le choix de payer ou d'avoir des publicités ciblées, c'est en accord avec le DMA? Et ici, il y a eu un communiqué qui a été publié le 1er juillet par la Commission européenne qui annonce avoir conclu sur le sujet après une enquête préliminaire, et que cette stratégie de Meta est illégale. Meta doit faire des changements ou pourra être potentiellement condamné à une amende qui pourrait représenter 10% de son chiffre d'affaires. Ça a même été relayé par Thierry Breton sur X, pardon. Et donc voilà, ça met un petit peu Meta dans la panade. Et donc voilà, la Commission européenne en tout cas a tranché ce système, cette stratégie de payer ou consentir enfreint les obligations du Digital Market Act qui, comme je disais, est rentré en vigueur tout récemment puisque ça date de mars 2024. Et donc, selon eux, les utilisateurs ne peuvent pas exercer librement leurs droits en demandant des publicités non ciblées qui seraient les mêmes pour tous les utilisateurs et donc, évidemment, qui rapporteraient moins d'argent à Meta. Alors, le problème ici, moi, je le vois aussi d'un point de vue produit. En gros, on demande à avoir trois versions du service ici et d'avoir des équipes qui maintiennent trois versions du service. Une version sans publicité du tout avec un abonnement qui est quand même la gestion d'abonnement de paiement etc. c'est quand même assez conséquent et qui permet d'avoir une expérience optimale puisqu'il n'y a pas de publicité ciblée du tout sur cette plateforme, donc à la fois Facebook et Instagram, donc une version du service. une deuxième version pardon, du service avec de la publicité ciblée. Et donc, du coup, il y a la personnalisation des publicités, mais il y a également la fréquence et le placement de la publicité qui doit être réfléchi pour trouver le bon équilibre entre générer suffisamment de revenus pour rendre le business viable et à la fois ne pas rendre l'expérience inutilisable. Et puis là, avec la décision de la Commission européenne, en tout cas le verdict ici, ça serait d'avoir une troisième version avec une version du service, avec des publicités non personnalisées. Mais du coup, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est qu'il va très certainement falloir revoir la fréquence et la quantité de publicités affichées pour que Meta ne fonctionne pas à perte non plus. C'est-à-dire que des publicités non ciblées, comme on l'a vu, ça rapporte beaucoup moins. Et donc, potentiellement, ça veut dire revoir la fréquence et mettre en risque, du coup, le business model de Meta. Parce que si beaucoup de personnes disent « Ah ben non, moi, je veux pas de publicité ciblée », eh ben le risque est qu'ils vont devoir aller sur une version dégradée, finalement, du service. Et donc, tellement dégradée qu'ils vont de moins en moins l'utiliser. Et donc, arrêter et partir de la plateforme, ce qui est un vrai risque pour Facebook. C'est pas étonnant que Facebook ait essayé d'aller sur leur stratégie, et même d'un point de vue de business, ça se tenait. Moi, personnellement, je trouve que la décision de la Commission européenne n'est pas viable d'un point de vue business. C'est quand même assez lourd en termes de conséquences pour les business qui sont propulsés par la publicité. Mais voilà. Donc, en tout cas, le verdict a été rendu. Et Meta ne va pas être sanctionné tout de suite. Hein. Généralement, la Commission européenne donne toujours un délai pour laisser les sociétés s'adapter. Et donc, Meta, ici, a jusqu'à mars 2025, plus précisément, pour proposer une solution alternative à la Commission, au risque, évidemment, de verser plusieurs milliards d'euros à l'Europe. L'entreprise Meta, elle, s'est exprimée. Hein. Elle croit toujours que son abonnement sans publicité suit l'orientation de la plus haute cour d'Europe et est conforme au DMA. C'est quelque chose qu'ils vont très certainement devoir défendre et prouver juridiquement. Donc, ce n'est pas terminé. À voir si Meta va continuer dans le long terme de tenir leur position ou si finalement ils vont accéder aux demandes de la Commission et donc dans ce cas, comment ça va se passer et quel impact ça aura sur l'expérience utilisateur, ça sera intéressant à suivre. Mais du coup, l'actualité de la Commission européenne est chargée puisque Meta n'est pas le seul qui a été dans le collimateur. Il y a également Apple. Apple qui même a été la première société qui a été jugée de ne pas respecter le DMA parce que c'est arrivé juste avant Meta. Donc 3 jours après l'annonce d'Apple sur la non-disponibilité de plusieurs nouveautés majeures en Europe, hein, suite à la WWDC, ils ont dit hop, attention, on a annoncé plein de choses lors de la WWDC, mais petit astérisque pour l'Europe, parce que le DMA ne nous arrange pas trop. Et donc, du coup, on ne va pas sortir certains services dans un premier temps en Europe. Voilà. Et donc, ça, c'était évidemment en crainte du fameux Digital Market Act qui est rentré en vigueur en mars 2024. Et donc, du coup, là, ce qui se passe, c'est que la Commission européenne a annoncé condamner Apple pour non-respect de son règlement sur le numérique. Margaret Vestager a indiqué que l'entreprise s'était faussement adaptée au DMA, plus précisément. Nous craignons qu'Apple ait conçu son nouveau modèle économique de manière à décourager les développeurs d'applications et les utilisateurs finaux de profiter des possibilités offertes par le DMA, comme je vous disais lors du sommaire. Et donc, du coup, il y a carrément eu un discours qui a été prononcé le 24 juin dernier par la vice-présidente de la Commission européenne en charge de la concurrence et qui annonce donc qu'Apple est la première entreprise sanctionnée dans le cadre du DMA. Et donc, la critique principale, comme je disais tout à l'heure, c'est que Apple aurait mis en place un système volontairement compliqué pour empêcher les Européens de payer en dehors de l'App Store. Et donc, plus précisément, les développeurs, Apple empêcherait les développeurs notamment de communiquer sur des solutions de paiement alternatives. Ça, c'est quelque chose qui a été longtemps critiqué, alors que normalement, dans le cadre du DMA, il est obligé de le faire. Et on a notamment des géants comme Spotify qui se sont vivement plaints depuis pas mal de temps hein, sur ce sujet. Et ils ont profité évidemment du DMA pour en remettre une couche. Ce qui est assez, pour moi, ce qui se défend tout à fait. Je trouve que pour le coup, Apple, ici, c'est un petit peu compliqué de défendre leur position. Et donc, du coup, même règle du jeu pour qu'Apple que pour Meta. Apple donc risque une amende pouvant aller jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial. Donc, ça veut dire soit pratiquement 40 milliards de dollars si on se base sur 2023. Et donc, la marque a néanmoins, encore une fois ici comme Meta, jusqu'à mars 2025 pour entrer en conformité. Et donc, du coup, il est très probable que les discussions continuent, Apple peut-être propose d'autres stratégie ou améliore sa stratégie ici de business model pour apaiser un petit peu les critiques de la Commission européenne. En tout cas, eux, ils se sont exprimés également et ils ont dit « Nous sommes convaincus que notre plan est conforme à la loi et nous estimons que plus de 99% des développeurs paieraient à Apple des frais identiques ou inférieurs dans le cadre des nouvelles conditions commerciales que nous avons créées. » C'est assez rigolo la manière dont c'est tourné. Évidemment, ils paieraient autant ou plus cher dans le cadre de ce que nous avons déjà défini. Maintenant, est-ce que ce qu'Apple a défini est du goût de la Commission européenne ? Pas sûr. Tous les développeurs qui font des affaires dans l'Union européenne sur l'App Store ont la possibilité d'utiliser les capacités que nous avons introduites, y compris la possibilité de diriger les utilisateurs de l'application vers le web pour effectuer des achats à un tarif très compétitif. Comme nous l'avons toujours fait, nous continuerons à écouter la Commission européenne et à dialoguer avec elle. Et voilà, il laisse Apple toujours très diplomate et laisse la porte ouverte évidemment à des discussions et des négociations continues avec la Commission européenne sur le sujet. Mais voilà, vraiment, cette problématique de paiement alternatif en dehors de... pour ne pas payer les frais, en tout cas, des 30% ou en tout cas des frais définis par Apple, c'est encore le sujet ici, la principale critique de la Commission européenne à l'égard d'Apple. Voilà. Et donc, comme je vous disais, pas étonnant que Meta et Apple soient visés, puisque le DMA vise les grandes entreprises de la tech, un service qui doit avoir 45 millions d'utilisateurs en Europe pour tomber sous le couperet donc du DMA. Les sociétés peuvent appliquer les règles du DMA comme ils le souhaitent, mais doivent ensuite se justifier auprès de la Commission pour prouver qu'ils respectent les règles. Et donc, du coup, ça montre un petit peu les différentes critiques ou en tout cas avertissements en cours de la Commission européenne. Autre information qui concerne Apple et la Commission européenne, tout simplement, la Commission européenne a annoncé ouvrir une sixième enquête sur Apple. Voilà, ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le sujet ? Cette fois-ci, la sixième enquête là est celle qui, la nouvelle qui concerne Apple, donc séparée du mode de paiement. Cette fois-ci concerne les étapes pour installer un magasin tiers sur iPhone. Quelque chose que Apple a contre lequel Apple a longtemps lutté, tout ce qui était App Store tiers, etc. Ils sont allés un petit peu à reculons et on peut comprendre pourquoi, pour des raisons de sécurité, etc. Mais là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du goût de la Commission européenne. Et donc, à voir ce que cette nouvelle enquête conclura dans le futur. Mais en tout cas, Apple n'en a pas fini avec la Commission européenne et le DMA. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous soutiennent ce matin, Andy76, Bpascal91 et Wow Canid. Un grand, grand merci à tous les trois pour votre soutien ce matin. Ça fait super plaisir et surtout, ça nous permet de pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent à temps plein pour la chaîne, pour vous produire du contenu de qualité. Donc, un grand, grand merci à vous. Et encore une fois, voilà, soutenir 1 euro, 2 euros, etc., ça peut sembler anodin, mais ça ne l'est pas. Vraiment, tout soutien vraiment aide et nous permet de pérenniser la chaîne et la production de contenu de qualité. Donc, un grand, grand merci à vous et un grand merci à Cetoul07 également pour ton soutien à l'instant. Un grand merci à vous tous. Voilà, donc la Commission européenne voilà, ne chôme pas ici avec la mise avec le lancement du Digital Market Act depuis mars. Voilà, on enchaîne et on va continuer à parler des géants de la tech, mais dans un autre cadre, dans le cadre du Tap to Pay. Tout simplement, c'est pour explorer un petit peu ce que Apple Pay et Google Wallet, par exemple, pourraient faire encore mieux avec le NFC si on autorisait le multi-tap. Le multi-purpose tap, la traduction un peu vulgaire, c'est le tap à objectif multiple. C'est affreux de traduire ça comme ça, mais en gros, de pouvoir avec un tap faire plusieurs actions. Voilà, et faire plusieurs choses. Mais alors, ce qui est intéressant de se poser la question, c'est ça autoriserait de faire quoi ? Donc, imaginez, vous utilisez Apple Pay ou Google Wallet, et donc, comme on aime le faire, bah, vous validez votre paiement. Mais imaginez qu'en plus de valider votre paiement, eh ben, ça vous permettrait de vérifier que vous avez plus de 18 ans si vous essayez d'acheter de l'alcool, puisque ça stocke ou ça accède d'une manière que ce soit à vos informations officielles d'identité. Et donc, du coup, bah, vous n'avez pas besoin de sortir votre carte d'identité et votre carte. C'est tout simplement avec votre téléphone, vous réglez et en même temps, ça valide votre identité. Imaginez également que vous utilisez votre carte à un magasin type Carrefour, Monoprix, etc., que sais-je. Et ça vous permet tout simplement de cumuler vos points fidélité automatiquement sans, encore une fois, avoir à vous trimballer avec une énième carte de fidélité avec vous. Ou tout simplement d'ouvrir l'application du magasin pour pouvoir passer votre carte de fidélité digitale. Non, non, tout ça se ferait en un tap. Ou une autre alternative, c'est de pouvoir tout simplement en payant automatiquement recevoir le ticket de caisse sans avoir à rentrer vos détails, votre adresse email, etc., ce qui est un petit peu pénible. Un exemple comme ça, c'est Uniqlo, par exemple, qui, avec leur borne digitale, vous demande de rentrer votre adresse email pour pouvoir recevoir de manière digitale le ticket. Mais du coup, ça demande à saisir à chaque fois ou de se loguer, etc. C'est un peu pénible. Là, ça pourrait être fait de manière instantanée sans vous demander d'action supplémentaire. Et donc ça, c'est assez cool. Mais pas que, ça pourrait également vous permettre potentiellement de recevoir des informations complémentaires sur le produit que vous venez d'acheter. Imaginez, vous achetez, un vêtement ou des meubles chez IKEA et ça vous envoie de manière instantanée les notices à la fois de comment utiliser le produit ou des conditions d'entretien du produit, de lavage, etc. ou les instructions de montage. Comme ça, vous les avez aussi dématérialisées s'il y a besoin ou ça vous envoie des informations sur comment recycler de manière adéquate le produit que vous venez d'acheter. Bon, ça fait beaucoup d'informations à recevoir par email. Donc, attention à quel email vous utilisez. Moi, j'avoue, j'utilise quand même mon email premier sur mon iPhone, il est important et c'est typiquement pas l'email avec lequel je fais des achats sur le web parce que j'ai pas envie de spammer avec des publicités personnalisées ou des tickets de caisse, etc., que je mets ailleurs, donc j'ai un peu un email poubelle pour ce genre de trucs. Et donc, du coup, voilà, ça me posait un petit peu un problème. Je sais pas comment résoudre ce sujet, mais c'est justement le risque de ce projet de multipurpose tap qui, en soi, nous simplifierait potentiellement grandement la vie. Je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus, hein, de pas avoir à faire 36 000 manipulations pour pouvoir bénéficier des informations ou les envoyer automatiquement, etc. Mais de l'autre côté, il y a potentiellement un problème de confidentialité de vos données, puisque ça va donner accès à votre profil de consommateur de manière assez facile et vous n'allez pas pouvoir, pour l'instant, ce n'est pas encore défini, mais vous n'allez pas pouvoir limiter quel type d'informations ils ont accès. Voilà, ce n'est pas très clair encore le cadre un petit peu de votre profil de consommateur, qui aura accès à quoi, est-ce que vous pouvez limiter quel type d'informations les gens ont accès, avoir un profil limité ou vraiment des choses qui sont uniquement pour le but de la transaction et qui ne donnent pas accès à vos coordonnées, type numéro de téléphone, etc., etc. Ce qui peut être assez pénible de recevoir ensuite des campagnes ciblées, marketing, sur votre téléphone, que ce soit par SMS ou par email. Donc, à voir un petit peu comment ça va être cadré. Mais en tout cas, c'est quand même assez excitant de nous simplifier la vie. Maintenant, attention de le faire en respectant notre confidentialité. De toute façon, je pense que ça sera obligé dans l'Union européenne, quoi. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont laisser filer comme ça. Donc, à voir un petit peu ce que ça voudrait dire. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait, hein, d'augmenter les fonctionnalités du tap-to-pay, donc du paiement sans contact avec votre téléphone, avec ce genre de fonctionnalité, pas besoin de rentrer votre email, de présenter votre carte de fidélité ou de pouvoir recevoir des informations intelligentes sur le produit que vous venez d'acheter directement juste en faisant le tap-to-pay. Holmes dit non, direct. Je regarde un peu vos commentaires et j'en profite pour remercier d'ailleurs RG065, Nunix59 et Ashgar86 pour vos soutiens ce matin. Un grand, grand merci à vous pour soutenir la chaîne. Donc j'ai un non catégorique, j'ai un oui tout aussi catégorique de Captain Booby. Ok, moi aussi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Je pense qu'on sous-estime le confort que ça peut amener. Comme on a pu sous-estimer le confort du paiement sans contact avec la carte et du paiement sans contact avec le téléphone. Moi, je m'étais dit, c'est bon, je n'ai pas besoin d'avoir le paiement sans contact sur mon téléphone, j'ai déjà ma carte. Mais en fait, le fait de ne même plus avoir à la sortir et de payer directement avec l'iPhone, j'y prends de plus en plus goût et je n'aurais pas envie de revenir en arrière. Oleg propose la fonctionnalité multiple, présenter ma carte de fidélité et me désabonner de leur newsletter. Pas sûr que ça soit dans cet ordre et dans cette direction que les marchands veuillent aller. Donc voilà, à voir quand est-ce que ça devrait arriver. Ouli nous dit que ça ne devrait pas tarder à arriver sur Apple Pay. On peut déjà lier des cartes fidélité à notre carte de paiement principale. Oui, d'accord, ça je ne savais pas. On peut déjà lier des cartes de fidélité à notre carte de paiement principale. Ok, je ne savais pas, Ouli, VR. Il faut que je creuse un petit peu ce sujet. Je me demande qu'est-ce qui est compatible déjà en France, tiens. Mais je vais essayer de regarder plus tard. Et si tu as un lien pour en savoir plus, n'hésite pas à le partager sur un réseau social en me nommant pour que je puisse voir ça, si toi, tu as un lien à dispo. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne le tap-to-pay et le futur, en tout cas, du tap-to-pay avec ses possibilités multiples. On continue. Tu nous dis chez Carrefour, par exemple. Ok. Ah. Intéressant. Faut que je regarde. Ah, je savais pas. La carte fidélité Carrefour est dans Wallet. Donc, dès qu'on paye avec Apple, ça la prend en compte. Oh. Ok. Faut qu'on regarde ça. Ça peut être pratique pour les courses. Très bien, merci pour l'info dans la chatroom. Trop bien. Est-ce que le système ne favorisera pas les grandes enseignes seulement? Bah, en fait, il faudra mettre à jour son terminal et ça sera à chaque commerçant de le faire. Mais c'est juste une notion de mise à jour de terminal. Alors attends, j'essaie de vérifier ça parce que c'est quand même une bonne question. Voir si j'ai un peu plus d'informations. Mais il me semble que j'avais vu dans un autre article, pas dans l'article de The Verge, mais un autre article, que la problématique, c'est que ça serait le déploiement, ça serait peut-être un déploiement software. Pour moi, la limitation, elle serait surtout software plus que hardware. Et donc, du coup, c'est plus une question de mise à jour des différents marchands. C'est pas forcément plus c'est gros, plus ça sera facilement fait. Mais. Donc, non, je pense que là-dessus, ça sera plutôt OK, Mademoiselle Dumaine. Mais c'était une bonne question, ouais, en effet. Une très bonne question. Merci de l'avoir posée. On continue, je vous propose de continuer. Et cette fois-ci, on va faire un tour plus précisément du côté, encore une fois, de Meta, mais vraiment Instagram. Plus précisément, qu'est-ce qui se passe du côté de Meta et d'Instagram? C'est l'arrivée du AI Studio. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ben, ça, c'est à destination donc des créateurs sur la plateforme Instagram et ça va leur permettre de faire des chatbots d'intelligence artificielle avec des versions d'eux-mêmes. Meta est en train de déployer ce AI Studio comme un premier test à certains créateurs aux États-Unis. Ça, c'est ce qu'a annoncé en tout cas Mark Zuckerberg sur sa chaîne de diffusion sur le réseau social. En faisant partie du test, vous risquez voir, vous, en tant qu'utilisateur, bah, tout simplement voir vos créateurs préférés commencer à utiliser l'intelligence artificielle dans les prochaines semaines sur Instagram. Alors, dans un premier temps, ça ressemblera à quoi l'intelligence artificielle sur Instagram? Eh bien, ça va, dans un premier temps, apparaître dans la boîte de messagerie des créateurs, où vous allez pouvoir interagir avec un chatbot qui va vous répondre. Ça sera clairement labellisé, c'est-à-dire que vous allez voir directement que, en effet, c'est un chatbot et de l'intelligence artificielle qui vous parle. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblerait. Donc là, vous avez une capture d'écran d'un profil de créateur sur Instagram et vous pouvez voir que vous avez les boutons traditionnels follow, donc là c'est en anglais, hein, mais suivre, follow, vous abonner, message, subscribe et je sais plus ce que c'est le petit bouton ajouter, je sais pas. Bonne question. Mais bon, on s'en fout un petit peu ici. Et donc, en fait, là, ce qui nous intéresse, c'est le second bouton message, où vous pouvez voir le petit icône de petite sparkle, d'étincelles, c'est plus que des étoiles, c'est des petites étincelles qui brillent. Tout simplement, ça, c'est. Ça devient un petit peu un pattern récurrent utilisé pour l'intelligence artificielle, où, bah, comme on ne sait pas trop. Quelle icône utiliser? On utilise l'icône Sparkle. Donc il y a un peu deux patterns qu'on commence à utiliser sur les services, c'est ces petites étincelles et des dégradés. Bon, le problème c'est qu'avec Instagram, il y a du dégradé déjà un peu partout. Donc du coup, ils ne pouvaient pas forcément l'utiliser, ce n'était pas pertinent, puis pas aligné avec leur design système. Mais donc là, ils utilisent leur petite Sparkle dans le bouton directement. Et donc du coup, ça indique qu'il y a l'intelligence artificielle qui fait son arrivée ici. Et lorsque vous cliquez dessus, vous atterrissez donc sur une interface de messagerie et vous pouvez voir qu'il y a un petit message d'avertissement sous le nom du créateur. Les messages sont générés par intelligence artificielle. Certains peuvent être faux ou inappropriés. Voilà. Bon, on espère que ça sera quand même pas inapproprié ou pas trop faux non plus. Mais bon, au moins, il y a cet avertissement, on va le dire comme ça. Et donc, vous pouvez voir également au-dessus de la bulle de la réponse de votre créateur qui a bien marqué AI, ensuite le nom du chatbot et le petit label bêta qui montre que c'est vraiment en test pour l'instant. Donc voilà un petit peu comment ça se traduit ici. Et voilà, et donc là, vous avez un autre exemple de chatbot avec le petit nom AI Wasted et également le petit label Beta à côté. Voilà un petit peu sur à quoi ça ressemblerait. Et donc, du coup, Mark Zuckerberg a dit notamment qu'ils ont travaillé de manière très proche avec les créateurs pour développer justement ces outils qui vont permettre aux créateurs de répondre à leur communauté, à leurs followers et leur permettre de chatter avec les gens dans leur communauté d'une manière utile et fun. Alors, à voir exactement ce que ça veut dire, parce que si c'est un chatbot qui chatte, c'est pas le créateur. Enfin, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Maintenant, ce qui m'interpelle, c'est comment ces chatbots sont conçus et entraînés. Si le but, c'est d'imiter, entre guillemets, un créateur, de se faire passer pour le créateur, il va falloir qu'ils intègrent le ton de la voix, enfin la personnalité de communication du créateur. Donc, est-ce que ça va être entraîné sur une banque de messages, laquelle, etc. Personnifié, merci NDH Sculpt. Voilà, donc moi j'ai une question déjà sur comment le chatbot est entraîné. Et ensuite, si le but du chatbot est de répondre de manière utile, si par exemple on peut imaginer dans le cadre de transactions, etc., si l'utilisateur pose des questions sur les conditions d'achat, d'envoi, plein de petites modalités là-dessus, et que le chatbot dit n'importe quoi. Ou est-ce que, comment ça se passe en termes de responsabilité légale? Comment tu entraînes le chatbot là-dessus? Est-ce que ça veut dire que le créateur doit écrire une base d'informations sur ses conditions de vente? Bon, c'est pas complètement déconnant puisque ça fait partie normalement des règles d'achat en ligne d'avoir ça. Donc, est-ce que par exemple c'est donner le lien vers les conditions d'achat et d'utilisation et du coup ça permettra au chatbot de répondre de manière précise aux questions des utilisateurs sur les conditions d'achat? À voir. Mais comment tu rends ça facile pour les créateurs de créer leur propre chatbot utile? Donc ça, moi j'aimerais être une petite souris pour voir un petit peu comment ils ont conçu ce AI Studio. J'aimerais bien jouer avec ça. Mais je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant, voilà, surtout qu'on le voit avec ces espèces de chaînes et de petits fils de messagerie dédiés entre un créateur et sa communauté, ça se développe pas mal, quoi. Je sais pas les stats, mais en tout cas, c'est une impression que j'ai eue en tant qu'utilisatrice. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour, hein. Voilà. Est-ce que vous... C'est quelque chose que vous utilisez, les échanges avec les créateurs ou les marchands sur Instagram. Moi, je l'utilise notamment pas mal pour tout ce qui est chiner des meubles, brocante et tout sur Instagram. Je suis pas mal de brocanteurs, tout simplement sur Instagram. Et souvent, ils ne communiquent pas à leur prix en public dans les posts. Parce qu'il y a une notion de négociation qui doit prendre place. Et donc, du coup, il faut demander le prix en message privé. Et là, typiquement, je vois un vrai intérêt. D'avoir un chatbot qui permettrait de divulguer le prix, potentiellement d'avoir une marge de négociation pour permettre d'enlever un petit peu de charge de travail pour les brocanteurs. Parce que quand même, c'est quand même beaucoup de boulot, quoi. Et surtout, il y a une notion d'immédiateté que les gens, que les gens respectent, et de week-end que les gens d'un côté ou de l'autre ne respectent pas. C'est-à-dire, il y a une attente que la réponse soit instantanée, alors que si je pose la question, moi personnellement, si je pose la question le week-end ou le soir, j'attends pas une réponse instantanée, quoi. J'attends que le la personne soit en week-end. Enfin, voilà, elle ne travaille pas 24 heures sur 24. Alors que le chatbot, ça pourrait résoudre un petit peu ce genre de problème et de friction. Oleg, hop, tu l'entraînes sur un jeudi contrib et c'est bon, il a tous les arguments. Pour conseiller sur les jeans japonais. Pas mal, pas mal, pas mal. Sur les jeans japonais, en fait, on pourrait avoir un chatbot super Jérôme qui va vous permettre de vous donner des conseils de cuisine, de couteau et de jeans japonais, quoi. C'est pas mal. Actuellement, ce serait un chatbot expert de la soupe miso. Moi, j'en profite. mes papilles en profitent, mais voilà, ça pourrait être rigolo. Yves Castel, bah, ça dépend. Tu me dis dans l'exemple que tu donnes, ce n'est pas le chatbot qui négocie le prix, il ne fait que les données. Bah, ça dépend jusqu'où tu peux paramétrer le chatbot. Tu pourrais très bien imaginer que tu lui dis pour telle catégorie de meubles, en telle matière, très simplement, pour telle catégorie de meubles, tu acceptes de négocier avec un prix, une baisse de prix jusqu'à 10%. Pour telle autre catégorie de meubles, ça serait 5%. Pour d'autres, voilà. Durant telle période de l'année, tu acceptes une négociation supplémentaire à 10% parce que c'est les soldes, etc. J'en sais rien. Hein. Ou si les articles sont marqués fin de collection, eh ben, t'acceptes d'ajouter une négociation supplémentaire. Enfin, si, je pense qu'il y a des choses super intéressantes qui peuvent être mises en place. Voilà. Donc, moi, je trouve ça assez, assez cool, assez curieux. Enfin, moi, je serais curieuse de tester, franchement. Yves n'a pas l'air convaincu. Très bien. Mais bon, voilà, on verra ce que ça veut dire. Ça pourrait être intéressant. Alors, on a parlé ça dans les messageries, mais une autre manière d'utiliser le AI Studio, c'est de créer également des petits personnages. Et des petits personnages qui pourraient impersonner le créateur ou des petits personnages indépendants. Donc, ça sera intéressant à voir aussi dans le futur. On vous tiendra évidemment au courant lorsqu'on a plus d'informations, tout simplement. on continue, et cette fois-ci avec la news du jour. On va parler encore d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci chez Apple, surtout que ça faisait un petit bout de temps qu'on attendait des annonces un peu plus claires et assumées de la part d'Apple. Et Apple a dévoilé des petites choses, plus précisément Tim Cook a dévoilé des petites choses justement lors de la dernière WWDC, et Jérôme vous en a parlé en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc du coup, il est très clair que Apple Intelligence, donc l'intelligence artificielle version Apple, devrait devenir de plus en plus importante dans les années à venir pour Apple. Et ça, c'est ce que nous dit Bloomberg. Et bon, Bloomberg, ils sont quand même assez bons dans l'analyse des services et des fonctionnalités Apple. Donc évidemment, ça reste de la spéculation, mais c'est quand même assez intéressant d'en parler. Et donc, du coup, voilà, à l'instar d'un Samsung dont le Galaxy S24 Ultra proposait assez peu d'évolution hardware, s'appuyait davantage sur Galaxy AI pour créer l'événement, et ben Apple compterait sur Apple Intelligence pour pousser son futur iPhone 16. Donc, vraiment quelque chose d'assez similaire ici. iPhone 16, donc l'iPhone qui devrait sortir à la rentrée. Donc, ça arrive très prochainement. Et donc, du coup... Donc, Apple devrait présenter son dernier smartphone comme, évidemment, le meilleur point d'entrée pour Apple Intelligence. Donc, ça rend d'autant plus étonnante, finalement, la décision d'Apple de ne pas sortir Apple Intelligence en Europe. Je vous avais dit tout à l'heure la peur du DMA, du Digital Market Act. Bah, je pense que, voilà, ils essayent d'être un peu plus précautionneux en ce qui concerne l'Europe, parce que l'Europe a serré la vis de manière un peu plus sévère. Justement, il y a notamment des discussions sur l'intelligence artificielle et l'usage en Europe. Donc, ils essayent pour l'instant de se prémunir de complexité additionnelle ici. Et voilà, rappelons aussi que pour le moment, seuls les iPhone 15 sont éligibles. Et donc, du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est une stratégie qui serait de, pour compenser des innovations hardware de moins en moins intéressantes, ça fait plusieurs années qu'on en parle, hein. La course à la puissance, aux capteurs, etc., c'est vraiment des améliorations incrémentales de moins en moins intéressantes. Et ben là où Apple pourrait être vraiment différent et se différencier, c'est les services proposés. C'est pour ça que depuis un nombre d'années, Apple met les bouchées doubles en ce qui concerne les services. On l'a vu avec Apple TV, Apple Fitness, son abonnement Apple One également, voilà. Donc, tous ces services-là, Apple Photo et tout. Et donc, du coup, d'après Bloomberg, la suite logique voudrait qu'Apple monétise à terme sa suite de fonctionnalités Apple Intelligence. Donc, pour le moment, proposé gratuitement pour commencer, parce que c'est vraiment le tout début, mais ça serait assez logique que Apple Intelligence Plus se déploie avec un paiement mensuel et on pourrait très bien imaginer aussi une intégration très fluide avec l'abonnement déjà existant d'Apple One. Voilà, et ça serait du coup assez similaire avec ce que fait déjà Google avec Gemini Advanced qui est déjà intégré à Google One de leur côté. Donc rien de révolutionnaire ici, mais c'est quand même assez intéressant, je trouve, de se projeter sur le futur du business model d'Apple, de la monétisation des nouveaux services liés à l'intelligence artificielle. Voilà. Oui, tu as raison, les fonctionnalités d'Apple Intelligence vont être limitées à l'iPhone 15 Pro. J'ai oublié le Pro dans ma phrase. Mais tu as tout à fait raison, Mark Kostler. Merci beaucoup pour la petite rectification. Tout à fait, tout à fait. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus en plus d'avoir un business model sur lequel on spécule encore, hein, évidemment, et pour l'instant, Apple démarre petit en restant gratuit. C'est un peu la même logique, je trouve, aussi à l'époque quand ils avaient lancé Apple TV, qui n'était peut-être pas gratuit au début, mais à un prix très peu cher parce que d'abord, le catalogue n'était pas très important, etc. Et puis, au fur et à mesure, ils augmentent les prix. Ce n'est pas très étonnant. Donc là, on aurait un peu la même approche, sauf que au début, ça serait gratuit. Et puis, au fur et à mesure, on pourrait imaginer des fonctionnalités ou des services qui s'étoffent et que certains services sont uniquement accessibles, certaines fonctionnalités seraient uniquement accessibles dans le cadre d'un abonnement payant. Autre élément qui est intéressant aussi, c'est que d'après Bloomberg, il y aurait notamment d'autres partenariats qu'Apple serait en train de conclure pour booster un petit peu son écosystème d'intelligence artificielle générative. On sait déjà qu'il y a un partenariat en place avec OpenAI, mais il serait en train d'enrichir un petit peu leur partenariat avec notamment Google et Anthropic. Le grand absent ici des négociations, ça serait Meta, parce que a priori, Llama a été jugé comme pas assez bon. Prends ça, pas assez bon pour faire partie des négociations sur les modèles d'IA générative. Voilà, ça c'est fait. Le petit tacle gratuit pour Meta. Mais en tout cas, des négociations seraient en cours pour Google et Anthropic. Anthropic, pour rappel, c'est une société fondée en 2021 par des anciens d'OpenAI qui insiste dans son marketing et son image de marque sur la sécurité de ses produits. Donc, assez aligné finalement avec le positionnement aussi d'Apple. Voilà. D'accord. Axwabunga nous rappelle que TV Plus était gratuit, genre 6 mois à l'achat d'un Mac, un iPhone. Oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Merci beaucoup pour le petit rappel. Donc voilà. Voilà en ce qui concerne Apple Intelligence Plus. Encore une fois, ce sont des spéculations, mais c'est vraiment très, très intéressant de se pencher un petit peu sur les possibilités. Imagine, tu fais ta communication sur la protection des données et derrière, tu t'allies à Meta pour les services. C'est vrai que ce n'est pas très crédible. Au-delà, en effet, du jugement sur la qualité du modèle, C'est vrai que le modèle business de Meta, voilà. Mais tu pourrais dire un peu la même chose sur Google, hein. Qui est quand même un géant publicitaire. Mais peut-être que Google, là où c'est rassurant, ils ont déjà pas mal de business professionnel, où du coup, bah, ils ont déjà ce scindement sur la protection des données, etc. Et donc, plutôt que. Et peut-être que du coup, ça rassure plus que Meta, qui n'a pas cependant aussi développé professionnel. À voir. Donc, à voir. On continue avec Apple et cette fois-ci, on va se pencher sur l'Apple Vision Pro. Pourquoi ? Eh ben, tout simplement parce que l'Apple Vision Pro, depuis le 28 juin dernier, est disponible à la commande en France. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, eh ben, c'est tout récent. Et du coup, il y a la date de sortie qui est prévue pour le 12 juillet prochain. Donc, ça approche à grands pas. Et donc, du coup, bah, la question qu'on peut se poser, c'est la galère de comment ça se passe pour adapter la vue du Vision Pro à sa vue, à sa propre vue. Puisqu'on le sait, hein, contrairement aux autres casques de la réalité, de réalité virtuelle, l'Apple Vision Pro ne peut pas être porté avec des lunettes. C'est une des grosses limitations. C'est un des gros paris, d'ailleurs, d'Apple. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'Apple vend des verres correcteur magnétique entre 115 € et 169 € pour les personnes qui veulent adapter le produit à leur vue. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que ça pouvait être un choix assez étonnant pour le Vision Pro, hein, de ne pas autoriser l'emplacement des lunettes. C'était vraiment un pari sur la qualité de l'expérience. Et donc, dans ce cadre, Apple s'est allié avec Zeiss, un fabricant de verres correcteurs sur mesure pour pouvoir produire ces verres pour le casque. Donc, comme je disais, il s'accroche magnétiquement dans le Vision Pro avec la possibilité, du coup, d'en posséder plusieurs pour toutes les personnes de la famille. Et donc, du coup, en France, la vente de verres correcteurs est strictement réglementée par le Code de la santé publique, hein, puisqu'il y a quand même des données de santé qui transitent sur la correction en tant que telle. Et donc, Apple, c'est pas aussi facile. Ils peuvent pas s'improviser opticien. Et donc, du coup, ça les oblige à mettre en place un parcours d'achat particulier pour pouvoir acheter le Vision Pro et notamment les verres correcteurs. Et donc, du coup, Numérama, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait le test, hein, du parcours d'achat et donc ils ont partagé leur expérience dans un article que je vous encourage à aller lire pour les plus curieux parce que vous avez carrément des captures d'écran. Donc, c'est vraiment assez détaillé et ça donne vraiment pas mal de précisions sur l'expérience ici d'acheter le Vision Pro et de se procurer les verres. Donc, du coup, pour acheter les verres correcteurs Zeiss, il y a déjà deux possibilités. On peut le faire dès la commande du Vision Pro, du casque, ou le faire un peu plus tard. Dans les deux cas, il y a besoin de faire un scan de son visage depuis l'application Apple Store. Et ça, c'est obligatoire. Ça va permettre à Apple de déterminer la taille du protège-tête pour adapter au verre. Voilà. Donc ça, hop, déjà il y a le premier. Attendez. Je vais vous montrer les captures d'écran juste après. Ensuite, dans le type de verre que vous souhaitez acheter, il y a deux types de verres proposés. Il y a des verres qu'ils appellent lecteurs, readers, qui sont en fait pour améliorer la vue de près. Avec trois options fixes, plus 0,75 à plus 25 dioptries, plus 1,50 dioptries à 1,75 dioptries ou 2 à 2,75 dioptries en termes de correction. Voilà. Et donc, chaque verre coûte 115 € et peuvent être achetés directement en magasin. Donc ça, c'est des verres qui sont à correction fixe sur une fourchette de correction que je vous ai citée. Et donc ça, ils sont un peu moins chers, 115, parce qu'ils sont pas, ils nécessitent pas de production personnalisée. Ensuite, il y a les verres prescription, qui sont, eux, uniquement délivrés sur prescription, comme son nom l'indique, hein, sur ordonnance, et qui couvrent beaucoup plus de problèmes de vue, même si, attention, tous les problèmes de vue ne sont pas couverts. Hein, donc, il faudra vous renseigner. Et donc, les verres ici, prescription, coûtent 169 euros et vous obligent à fournir une ordonnance. Voilà, donc du coup, ça veut dire que quand même, c'est le verre unique. Donc, si vous avez une correction à chaque œil, ça fait grimper pas mal la facture. Et donc, du coup, c'est ce qu'a choisi Numérama là, dans son test. Ils ont opté vraiment pour les verres prescription parce que du coup, c'est l'achat le plus compliqué qui va requérir de votre part de donner des documents et une prescription pour avoir votre verre adapté. Et donc, ça se passe un peu comme ça. Vous avez un peu plus de détails ici. La livraison est faite sous 2 semaines. Et vous avez quelques petites informations dans le parcours d'achat où on vous informe que vous allez devoir transmettre votre ordonnance actuelle de lunettes pour la vision de loin après avoir passé votre commande. Elle sera chiffrée et transférée en toute sécurité à leur partenaire Zeiss qui procédera ensuite à son examen et à sa vérification, notamment sur la validité de la prescription. Il y aura peut-être une demande de signature à la livraison, etc. Voilà. En termes d'informations, ça, c'est les premières informations communiquées. La commande de verre correcteur ressemble donc à une commande un peu normale pour un produit Apple avec un parcours d'achat assez classique qui ne requiert pour le moment aucune ordonnance. La différence, c'est qu'à la fin de la commande, une fois que vous avez réglé le montant, etc., Apple indique à son client qu'il a 1 mois pour transmettre une ordonnance à Zeiss. Et là, c'est le parcours un peu plus compliqué qui commence. Et je vous montre, vous avez une confirmation de commande, mais en gros, on vous demande bien, attention, il va y falloir transmettre votre ordonnance pour pouvoir avoir les verres. Et il y a 1 mois pour le faire. On imagine que si le délai d'un mois n'est pas rempli, il y aura peut-être un remboursement des verres commandés qui va être automatique, etc. Bon, ça, je pense que pour ceux qui souhaitent creuser, vous pouvez aller voir les conditions d'achat, comment ça se passe pour creuser un peu plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà. Et donc, du coup, ensuite, vous allez avoir un mail de la part d'Apple qui vous donne carrément un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer et qui va vous rediriger vers une plateforme avec un bouton d'envoi pour transférer une photo ou un document PDF. Et donc, du coup, ça permet en quelques secondes d'envoyer à Zeiss son ordonnance médicale et d'accepter l'utilisation des données, donc notamment ici à la collecte, l'utilisation, la divulgation et le traitement des données de prescription fournies par Carl Zeiss Vision International et Carl Zeiss Vision France afin de produire les Zeiss Optical Inserts. Donc là, rien de inquiétant, etc. C'est juste un consentement légal pour entre les différents partenaires différentes sociétés de Carl Zeiss de pouvoir se transmettre les informations afin de produire les verres de manière adéquate. Et donc, du coup, on vous donne bien des informations pour transmettre la prescription. C'est une prescription exhaustive, ça veut dire examen complet faisant état des corrections nécessaires pour la myopie ou l'hypermétropie. Les corrections doivent être indiquées séparément, mais sur une même page. La date d'expiration toujours valide, donc il y a les dates de validité, enfin les durées de validité des prescriptions optiques qui varient en France. Donc renseignez-vous un petit peu en fonction de ça. Je crois que c'est en fonction de... Je crois que c'est 5 ans. Après, par rapport à la Sécu, ça varie en fonction de l'âge. Et donc à voir là, mais bon, renseignez-vous peut-être là-dessus. Il faut évidemment votre nom complet et évidemment l'identification complète de votre professionnel de santé ici. Et donc évidemment la date de l'examen, etc. Voilà. Donc vous aurez toutes les informations qui sont affichées dans le parcours. Donc vérifiez bien vous-même la date de validité de votre prescription. Si elle est plus valide, tout simplement vous allez devoir vous rendre de nouveau chez votre ophtalmo pour la refaire. Donc voilà. Ça a l'air relativement simple, pour être honnête. Et à la suite de l'upload du partage de votre document, vous allez recevoir un mail avec un devis qui est normalisé, hein, de la part de Zeiss, cette fois-ci, qui vous confirme bien la commande des verres. Voilà, tout simplement. Et donc, vous saurez, donc là c'est le devis, vous aurez une autre confirmation une fois la prescription acceptée. Donc voilà, ça a l'air quand même assez bien foutu, même si c'est un peu long. En tout cas, ça montre aussi que Apple à aucun moment ne va manipuler de données de santé. Donc ça, c'est assez intéressant comment ils se sont protégés ici. Et non, en effet, le Naotech ne prévoit pas d'acheter l'Apple Vision Pro, c'est beaucoup trop cher pour l'instant. Et ça n'a pas l'air d'intéresser plus que ça les gens pour l'instant. Non, il n'y a pas, Julie, il n'y a pas en effet de date d'expiration sur une ordonnance. Donc normalement, il faut peut-être se renseigner sur les délais de validité d'une ordonnance. Et normalement, ça varie avec l'âge, puisque en fonction de l'âge, votre vue varie plus ou moins rapidement. Et donc du coup, pour encourager les gens à faire vérifier leur vision régulièrement, il y a des délais qui varient. Voilà, donc quand vous êtes jeune, notamment pour les enfants, je crois qu'il y a une durée de un an ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'on établisse que la vision se soit stabilisée à l'âge adulte, mais je ne vais pas vous donner d'âge précis parce que je ne les ai plus en tête. Et puis après, pareil, lorsqu'on devient un peu plus âgé, il y a la durée des prescriptions est plus courte parce qu'il y a des risques de développement de certaines conditions qui peuvent affecter la vue. Et donc, ça requiert un check-up ophtalmologique plus fréquent. Voilà, donc les prescriptions durent moins longtemps. Donc, à voir. En tout cas, vous avez eu un aperçu de l'expérience d'achat de l'Apple Vision Pro avec des verres correcteurs. Voilà, voilà. Dernière news tech, et c'est une toute petite brève ici que je voulais mentionner, vu qu'on avait parlé notamment d'Apple et des efforts d'Apple sur la réparation autonome des équipements Apple. Voilà, et ça fait partie des engagements que la société prend et essaye de montrer un peu plus patte blanche. Et ils avaient annoncé notamment une application officielle de diagnostic de l'iPhone. Ce qui est nouveau, c'est que tout simplement, cette application fait son arrivée en France. Voilà, le service diagnostic Apple pour Self-Service Repair arrive enfin en France. Donc, il y a un logiciel Apple Diagnostic qui permet aux utilisateurs de détecter les problèmes sur leurs appareils Apple. C'est un outil qui est déjà utilisé d'ailleurs par les réparateurs agréés par Apple et qui nécessite un appareil Apple en question ainsi qu'un second appareil pour le diagnostic. Ça a été lancé aux États-Unis en fin d'année dernière, mais il avait du coup mis un peu de temps avant d'arriver en France et il permet aux utilisateurs la possibilité de tester leurs produits afin de s'assurer de la fonctionnalité et des performances optimales des pièces. Il peut identifier notamment les pièces qui pourraient avoir besoin d'une réparation ou d'un remplacement. Voilà. Donc, c'est disponible en Europe et prend désormais en charge les iPhone, Mac et Studio Display dans un total de 33 pays et 24 langues. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, il va falloir quand même avoir deux appareils, hein, pour rappel. Par exemple, pour lancer un diagnostic sur l'iPhone, il suffit tout d'abord de placer cet iPhone en mode diagnostic et ensuite de le relier à un appareil secondaire. Ensuite, il faudra rentrer le numéro de série de l'iPhone et toucher le bouton « Démarrer » pour lancer la suite de tests souhaitée. Donc voilà, vous avez tous les détails dans l'article de Clubic. Hein, donc si vous souhaitez creuser un peu plus, je vous encourage à y aller. Je ne vais pas vous faire le détail de la démarche. Mais en tout cas, c'est enfin disponible et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, quoi. Voilà pour ceux qui étaient intéressés, qui se posaient la question. Et je voulais terminer l'émission ce matin avec une petite application anecdote partagée et trouvée par The Verge qui m'a fait sourire et en fait qui a pour but tout simplement de vous encourager à vider votre corbeille d'ordinateur plus souvent, votre corbeille de Mac, parce que c'est une application disponible pour les Mac. Et donc, du coup, je ne sais pas, vous, à quelle fréquence vous supprimez votre corbeille. C'est vraiment, supprimer votre corbeille, vider votre corbeille, c'est vraiment un peu la tâche laborieuse et pas très, très intéressante. Mais voilà, c'est quand même assez rigolo de se dire qu'il y a quand même des apps qui se posent la question de comment mieux gérer la gestion de tout ce que vous avez mis à la poubelle, de vos documents, services, etc., applications à la poubelle. Donc ça, c'est assez, assez rigolo. Et en fait, il y a une application que The Verge a trouvée qui s'appelle Banana Bean et en fait, qui va vous permettre de définir plusieurs paliers pour vous encourager à vider la corbeille plus souvent. Et donc, vous avez le mode Janitor qui va se déclencher à 10 mégas. Vous avez le mode The Recycler qui va se déclencher à 1 giga dans la poubelle. Et vous avez carrément le mode Garbage Order pour ceux qui collectionnent et qui n'arrivent pas à se défaire de leur poubelle qui se déclenche à 10 gigas. Voilà. Et donc, du coup, en fonction du mode que vous choisissez, eh ben, vous allez avoir des petites mouches qui vont apparaître autour de votre corbeille pour vous dire « Ah bah là, ça y est, il est temps de vider la corbeille, quoi. » Et en fait, ça paraît complètement anecdotique, et ça l'est, mais je trouve ça assez rigolo. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Et vous pouvez même faire fuir les mouches quand vous agitez votre curseur sur la poubelle. Vous voyez, vous pouvez les vraiment comme faire fuir voilà, les mouches quand vous agitez votre main, etc. Le bon goût, vraiment, l'application utile à installer sur son Mac. Bon, moi, ça m'a fait sourire. Et rien que pour ça, je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Il y a toujours de la créativité qui apparaît un petit peu dans la communauté des applications, et que ce soit sur Mac ou que ce soit sur ordinateur ou sur smartphone. Et voilà, et je trouvais ça vraiment trop rigolo. Donc, je ne l'ai pas testé. Ça demande pas mal d'accès, etc. Donc, lisez quand même en détail si ça vous intéresse, etc. Mais c'était vraiment la petite anecdote de l'application qui m'a vraiment fait sourire. Le coup de comment vous encourager à vider votre poubelle plus souvent. Vous êtes comment dans la chatroom? Est-ce que vous êtes en mode collectionneur compulsif qui n'arrive pas à jeter et trier ses affaires ou est-ce que vous êtes celui qui aime garder sa poubelle très clean, genre email à lire zéro, la inbox zéro, et qui supprime qui vide ses corbeilles tous les jours ou toutes les heures? Vous êtes comment vous êtes quel parti pris dans la chatroom? Les mouches, c'est aussi le signal qu'il faut laver son jean. Ouais, si t'arrives à avoir les mouches autour de ton jean, c'est... Il n'y a pas que le jean à laver, quoi. Sur Windows, tu fais un shift suppression en général et ça ne passe même pas par la corbeille. Ah ouais, toi, t'es radical, quoi. Videur de corbeille compulsif. Sa main supporte quand c'est pas vide. Pareil pour les mails et autres. À lire zéro marqué comme lui, puis tous les 6 mois, le PC plante quand je fais le ménage. Je supporte pas de voir le logo de la corbeille avec quelque chose dedans, c'est comme une notif non lue. Ah, je vois qu'il y a pas mal de compulsifs dans la chatroom. Je regarde un peu vos commentaires. Il y en a qui configurent carrément la corbeille pour le faire automatiquement. Mademoiselle Dumain laisse sa corbeille de mail le faire elle-même. Ouais. Moi, j'avoue que je suis moins... Enfin, les mails, je suis un peu relaxe, ça va. Mais j'avoue que j'aime bien faire le ménage quand même. Genre, je supprime souvent, etc. Mais j'ai jamais d'inbox zéro, quoi. Genre ça, je n'y arrive pas. Ça nécessite trop de rangement dans des dossiers, des machins, etc. Ça me saoule. Mais par contre, la corbeille de mon Mac... Alors là, je la vide plusieurs fois par jour. Moi, j'en suis à plusieurs fois par jour, quoi. C'est pour vous dire. Genre, je finis toujours la journée, au moins la semaine, par une corbeille vide. Et ça va aussi pour mon bureau, quoi. Généralement, Bon, ça m'arrive d'avoir le bordel parce que des fois, je suis vraiment en cours et je fais plein de captures d'écran, etc. Et donc, du coup, j'ai un bureau un peu en bordel. Mais genre, au moins à la fin de la semaine, il est clean. Donc voilà. Donc moi, je fais partie un peu des compulsifs en ce qui concerne la corbeille et le bureau, quoi. Donc voilà. Dans la communauté des Denim Heads, les non-laveurs sont maintenant vus comme des hérétiques. Ouf. Heureusement. Ah là là, mais je suis impressionnée à ceux qui arrivent à avoir une inbox zéro. Hein. Franchement, respect quoi. Moi, j'y arrive pas. Surtout qu'avec toutes les boîtes mail, c'est pas possible quoi. Bon, écoutez, il est 9h15. Petite information, malheureusement, on va devoir annuler les mugs de la semaine prochaine. Donc, il n'y aura pas de mug la semaine prochaine parce que Jérôme est en déplacement, etc. Et on va pas pouvoir. Enfin, malheureusement, je pourrai pas reprendre le relais mardi. Donc, vous êtes prévenus. Cette semaine, pas de changement. Voilà, on est bien là. Mais la semaine prochaine. Ah, bon. Jérôme me contredit, il y aura un mug uniquement le vendredi prochain. Donc la semaine prochaine, pas de mug ni mardi ni jeudi, vous êtes prévenus. Et du coup, pas de jeudi contributeur, voilà, je spécule ici. Mais voilà, pas de mug mardi ni jeudi et Jérôme reviendra le vendredi de la semaine prochaine. Cette semaine, pas de changement, Jérôme est bien là. Désolée, c'est un peu la tuile en effet de vous annuler les mugs alors qu'on vient juste de revenir. Désolée, désolée, des petits problèmes de calendrier à gérer, des déplacements, mais voilà, c'est que partie remise et on sera bien là après. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Du coup, moi, je vous retrouve dans 2 semaines. Et d'ici là, bah, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Avant de se quitter, on va quand même voir vers qui on fait un petit raid pour pas vous laisser en plan. Ta ta ta. Et on va aller voir bah, Cabri. Tiens, allez, on va faire un petit raid. Vers Cabri. Moi, de mon côté, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.